Et à midi, on aime l'été. Très heureuse de vous retrouver une fois de plus en ce 9 août 2017, Clotilde Seille, en votre compagnie sur les ondes de Canal M pour vous présenter M l'été, avec des invités, ma foi, fort sympathiques, qui nous éclairent, qui nous amusent, que vous aimez beaucoup, je le sais. Je pense par exemple à Michel Bédard, des Capés, qui nous fait des chroniques en direct de notre vieille capitale. Alors, comme ça, on sent battre un petit peu plus le pouls de Québec en cet été. On parlera de plein air, des grands feux, l'Auto-Québec et aussi des passages insolites à Québec. Je vais aussi m'entretenir en studio avec Françoise Henry, qui est la directrice de la Société des arts en milieu de santé, au sujet du projet Cueilleur de mémoire. Rien que le titre, on a déjà envie d'en savoir plus. Et puis, par téléphone, une entrevue avec Julien Racicot, le fondateur et le directeur de la Fondation Adapte-toi, toi, T-O-I-T, qui se prépare à partir le 15 août pour la traversée Le Courage d'avancer, une expédition reliant la Gaspésie et Montréal en fauteuil roulant. On va donc lui parler avant et on lui parlera après cet exploit-là. Et puis, elle sera en studio également avec moi, Isabelle Julien, directrice du centre La Petite Échelle, qui est le seul centre de répit du Grand Montréal spécialisé en stimulation, qui offre un service un pour un. Qu'est-ce que ça veut dire? Un intervenant pour chaque enfant. Là encore, des gens formidables et cette femme à qui j'ai bien hâte de parler. Vous écoutez Canal M, aime l'été. On commence comme tous les jours par quelques nouvelles. C'était dans Le Devoir il y a quelques jours. Quand le son remplace les yeux, ils sont non-voyants mais peuvent se repérer dans l'espace en claquant des doigts ou de la langue. Zoom sur un radar à écho ultra-performant qui commence à être entraîné dès le plus jeune âge. Alors, on parle d'un homme, on le surnomme Batman. Aucun masque à oreilles pointues, aucune cape flottant au vent pour autant. Si Daniel Kish, c'est son nom, mérite ce sobriquet de Batman, c'est parce qu'il a de la chauve-souris bien plus que les accessoires hollywoodiens. Il a le pouvoir de se repérer dans la nuit. Une nuit noire dans laquelle l'Américain est plongé depuis toujours ou presque. Il a été atteint d'une tumeur de la rétine alors qu'il n'avait que 13 mois et on a dû lui retirer ses deux yeux. Lui reste alors, pour appréhender ce qui l'entoure, son sens de l'ouïe que Daniel Kish développe de manière inouïe, au point de parvenir aujourd'hui, tout comme les mammifères nocturnes, à voir le monde grâce au seul son qu'il émet. En général, c'est un claquement de langue ou le bruit de sa canne sur le sol, des flashs sonores envoyés dans l'espace qui se répercutent sur les surfaces alentour avant de lui revenir sous la forme d'échos chargés d'informations. « Je peux sentir, dit-il, l'emplacement d'un objet, sa dimension, ses contours et sa texture. Par exemple, je saurais reconnaître une étagère remplie de livres car ceci renvoie un écho particulier. » Chez ces animaux, et là on parle bien sûr entre autres des chauves-souris, l'écholocalisation est génétiquement programmée, alors que chez l'humain, le cerveau s'adapte pour la développer. Nous apprenons au fur et à mesure à construire l'espace en alliant notre déplacement au son que nous produisons, explique Roland Maurer, éthologue à l'Université de Genève, spécialisé en orientation spatiale. Avec son radar surdéveloppé, Daniel Kish peut donc voyager, se promener en pleine nature et même faire du VTT. Des exploits qui l'ont érigé au rang de super-héros de l'écolocalisation avant même qu'il ne fonde en 2000 la World Access for the Blind, l'organisation qui aide les aveugles à maîtriser l'écolocalisation et forme les voyants à l'enseigner. Des cours et des ateliers dont ont déjà bénéficié 500 personnes dans près de 40 pays, avec à terme un double objectif, favoriser le développement des personnes non-voyantes tout en sensibilisant le public à leur potentiel. Dans le journal de Lévis, on trouve ce titre « Un projet pilote pour la formation de préposés aux bénéficiaires ». Ce projet vise à recruter de nouveaux préposés pour combler des postes dans les CHSLD de la région, plus particulièrement ceux de Lévis, Bellechasse, Lobinière, Nouvelle-Beauce, Montmagny et Lillet. Le programme a été élaboré sur mesure en suivant la formation régulière offerte par les commissions scolaires de la région. La formation qui s'échelonne sur 9 semaines se concentre sur les soins requis par les personnes âgées en perte d'autonomie. Elle prévoit également du mentorat ainsi qu'un encadrement au cours de la première année de travail. Le programme de formation se concentrerait sur les compétences humaines et professionnelles spécialement recherchées chez les préposés aux bénéficiaires en CHSLD. Le CIS de Chaudière-Appalaches considère que la formation régulière de préposés aux bénéficiaires demeure le meilleur atout pour le futur préposé désirant s'outiller pour tous les secteurs de soins. L'Association québécoise des retraités des secteurs publics et parapublics, l'AQRP, est préoccupée par la tendance de plusieurs CIUS du Québec à alléger la formation des préposés aux bénéficiaires, la faisant passer de 25 à 9 semaines. C'est une erreur de couper dans la formation pour surmonter des défis de rétention du personnel. Il y a un travail à faire au niveau du gouvernement pour améliorer les conditions dans lesquelles ces individus travaillent et ce que l'on constate, c'est que le gouvernement cautionne ces changements et nous trouvons cela déplorable, a souligné Donald Tremblay, président de l'AQRP. C'était d'après un texte de Louis-Philippe Sanson. Sur le site atlantico.fr, on trouve ce reportage sur les villages pour personnes âgées atteintes d'Alzheimer et on se demande, est-ce vraiment le meilleur endroit sur Terre? Des villages d'un nouveau genre ont vu le jour depuis 2009 en Amérique du Nord, destinés aux personnes âgées souffrant de déficience mentale ou d'Alzheimer. Ils reconstituent des villages des années 50, avec leur commerce typique. En quoi consiste cette initiative? Comment peut-elle être perçue pour les personnes concernées? Quels sont les effets recherchés auprès de ces personnes-là? Christophe de Jaeger dit « Il s'agit là d'une logique très différente de celle qui consiste simplement à les réunir dans un même lieu, village, ensemble immobilier, etc. Des personnes âgées souffrant de handicap pour leur garantir une plus grande sécurité sanitaire, importante présence médicale et paramédicale, tout en mettant à leur disposition de nombreuses activités adaptées. » Ce type de structure nécessite de bonnes ou d'assez bonnes. Pardon, je viens de perdre ma ligne, ce sont des choses qui peuvent arriver. Nous sommes en direct, mes amis. Alors, de bonnes ou d'assez bonnes fonctions cognitives, voilà, je m'en excuse, pour en profiter, excluant ainsi les personnes atteintes de démence de type Alzheimer. Dans le cas présent, il s'agit plutôt de villages thérapeutiques dont le principal objectif est de diminuer l'anxiété, voire l'angoisse que ressent le patient ayant une maladie d'Alzheimer et qui ne peut assimiler des données nouvelles. Alors, est-ce que replacer des personnes âgées dans des villages parfaits peut avoir des bénéfices pour aider leur prise en charge? Inversement, quels sont les risques découlant d'une telle initiative? Je ne sais pas ce que peut être un village parfait. Il pourra être parfait pour Monsieur X et horrible pour Madame Y, de dire Christophe de Jaeger. Et puis enfin, tourisme, la réalité virtuelle, une solution pour le public handicapé. Un concepteur de visite virtuelle vient de s'installer en Haute-Loire, en France, à Saint-Geur, et il propose une solution technique pour permettre aux personnes handicapées de profiter des sites touristiques. Cet ancien économiste et salarié dans l'agroalimentaire s'est orienté dans l'informatique. Avec E. Jones, le nom est un clin d'œil à l'aventurier Indiana Jones, il s'est spécialisé dans la création de sites web et le développement d'applications. Et depuis quelques mois, il a développé une application pour permettre à des personnes handicapées de visiter des grottes, des musées, des parcs qui ne sont pas adaptés à leur situation. L'idée m'est venue du père d'une amie qui ne pouvait pas visiter une grotte du fait de son handicap. J'ai voulu apporter une solution technique. Alors ce qu'il fait, il a imaginé un système s'appuyant sur la réalité virtuelle avec son matériel, une caméra 360 degrés et des drones. Il capte des photos et des vidéos des sites touristiques. Le tout est intégré dans un logiciel et grâce à un casque, la personne peut ainsi visiter le site en immersion comme si elle y était. Il s'appelle Eltin Razafin Dracoto et il a pu mettre en application son idée à la grotte de Clarmouze dans dans la région de l'Hérault en France. Alors évidemment, ça coûte des sous. Selon le nombre de casques, il faut compter entre 700 et 1200 euros. Mais ma foi, sait-on jamais. Peut-être que ça va nous arriver chez nous et qu'il y aura beaucoup de commandes et que du coup, ça coûtera moins cher. Alors, chronique Quoi faire à Québec, on va sentir le pouls un petit peu de notre capitale avec Michel Bédard. Bonjour Michel.
Bonjour Clotilde.
Alors, tout va bien là-bas?
Très bien, et comme vous le dites, ça grouille énormément encore une fois par les temps qui courent à Québec.
Alors, trois sujets d'ailleurs. Hein? On fait un zoom sur trois événements différents. Je vous laisse nous raconter tout cela.
D'accord. Tout d'abord, j'aimerais juste revenir sur quelque chose que j'ai parlé à ma dernière chronique, c'est-à-dire les fêtes de la Nouvelle-France, très rapidement. Ces fêtes-là commencent ce soir et j'ai eu la chance de réaliser, dans le cadre de l'émission Les Capés, lundi matin, une entrevue avec la directrice générale de l'événement et elle nous parle en gros des activités qui seront présentées lors de cet événement et nous parle également de tout ce qui est accessibilité universelle dans le cadre de l'événement.
Ah, bravo.
Vous pouvez réécouter cette entrevue-là sur ma page de Facebook au facebook.com/lescapés, c'est KIA.
Bon,
donc,
facile, d'accord.
C'est quelque chose qui, si vous voulez venir à Québec et que vous vous demandez si cette activité-là est accessible, eh bien, vous aurez toutes les informations
à cet
endroit-là.
Très, très chouette, Michel. Merci beaucoup pour cette précision.
D'accord. Parlons maintenant des trois sujets dont je voulais vous parler ce midi. Tout d'abord, plein air qui est débuté depuis le début du mois, depuis le 1er août.
Oui.
Et cette activité-là aura lieu jusqu'au 13 août prochain, donc pas dimanche ci, l'autre.
D'accord.
Oui.
C'est jusqu'à dimanche qui vient, je pense.
C'est bien ça.
D'accord.
Donc, c'est jusqu'à dimanche. C'est un salon des métiers d'art où vous pourrez avoir la chance de voir des centaines d'artisans, que ce soit avec le bois, le verre, le métaux, le textile, le papier, la céramique. Et ça, c'est une activité qui est sous trois gros chapiteaux, avec toilettes accessibles pas très loin au marché du Vieux-Port.
D'accord.
Et c'est un endroit qui est très, très accessible avec les rampes d'accès et tout.
D'accord.
C'est vraiment quelque chose d'intéressant.
Bon,
et
avec des allées assez larges, hein?
Oui, tout à fait. Ça circule très bien. En fait, ça circule même deux fauteuils de large par an.
Ah, mon Dieu, en effet. Oui. Bon, c'est bien.
Il n'y a aucun problème avec ça. Il y a même un concours. Trouvez votre Christian Bégin.
Oui, j'ai vu une photo passer parce que j'ai une amie qui expose là-bas et elle a pris une photo avec avec le faux Bégin qui se balade comme ça là en taille réelle et donc elle nous a posté ça en nous disant ça y est, j'ai trouvé mon Bégin.
Et effectivement, il y a en participant à ce concours-là, vous avez la chance de gagner de très, très beaux prix. Je n'en fais pas la nomenclature ce midi, faute de temps, mais sachez que c'est de très beaux prix.
D'accord.
Et pour plus de détails, vous allez au www.métiersd'art.ca et à cet endroit-là, vous aurez le lien pour
le salon plein air. D'accord, très, très bien.
Comme je le disais, ça termine dimanche le 13 août. Prochain.
Oui, puis il faut y aller parce qu'il y a des gens vraiment fantastiques, très inventifs. Puis moi, c'est ce que j'apprécie le plus, hein, souvent quand on tombe sur des gens qui font des choses absolument merveilleuses et auxquelles on n'avait pas pensé, mais qu'en plus, ils ont mené leur projet à bout. Et puis ils sont du Québec, il faut les encourager.
Oui, bien, en fait, il y a même certains artisans qui sont d'Europe.
Ah oui, aussi?
Oui, il y en a quelques-uns.
D'accord.
Je ne peux pas vous dire combien exactement, mais je sais qu'il y en a quelques-uns.
Bon.
Ça fait 2 ou 3 ans là, qu'ils invitent des gens de l'extérieur du Québec afin de pouvoir exposer lors de ce salon-là.
Eh bien, il faut les encourager aussi.
Tout à fait. Donc, et l'autre événement dont je voulais vous parler ce midi, c'est les Grands Feux Loto-Québec.
Ben oui!
Qui ont débuté mercredi le 2 août. Ils ont fait une pause samedi dernier, mais reprennent ce soir avec comme thème la musique traditionnelle.
Okay.
Donc, c'est des petits artistes de 20 minutes qui débutent à 22h tapant.
D'accord.
Et il y a de l'animation qui a lieu une heure avant à deux endroits, un endroit à Lévis et un endroit à Québec. Donc, ça permet aux gens de pouvoir attendre l'arrivée des feux d'artifice
D'accord.
à ces deux endroits-là. mais il y a également beaucoup d'autres places qui permettent de voir les feux d'artifice.
D'accord.
Il y en a une douzaine
Mais quand vous parlez
d'endroits-là.
d'endroits où il y a de l'animation, c'est où à Québec?
En fait, c'est à la Place des Canadiens, une nouvelle place qui a été inaugurée en début juin.
D'accord.
En fait, ils ont enlevé un grand stationnement pour faire une place publique avec un stationnement étagé à côté. C'est très, très bien situé, complètement accessible, des toilettes accessibles.
Wow.
Bref, c'est complètement neuf.
Oui, oui,
Donc,
oui.
il n'y a
On aime ça.
aucun stress pour ce qui est de l'accessibilité. Pour ce qui est de Lévis, c'est la même chose. Il y a un endroit qui est flambant neuf avec toilettes accessibles, stationnement et tout. C'est vraiment deux endroits
Bon.
qui sont à privilégier pour voir les feux d'artifice. Mais comme je vous disais, il y en a d'autres. Et ces endroits-là sont mentionnés sur le site Internet au www.lesgrandsfeux.com.
D'accord. Et le troisième sujet, ça, j'ai hâte que vous m'en parliez, je dois dire.
En fait, c'est un parcours d'art public. C'est neuf installations ludiques et intrigantes qui ont été créées par des artisans en art visuel et collectif, en architecture. Et ces personnes-là questionnent notre rapport au monde et à l'espace urbain. Donc, c'est un parcours, comme
D'accord.
c'est mentionné. Et c'est super intéressant. Et j'ai eu la chance de poser des questions aux gens des communications de cette place-là, de ce parcours-là. Et ils m'ont assuré que le parcours n'avait pas d'obstacle majeur pour les gens en fauteuil roulant.
D'accord.
Le parcours est c'est 20 minutes, mais ça peut prendre jusqu'à 1 heure et demie à faire le parcours. Pour
D'accord.
ce qui est des personnes avec un handicap visuel, il est également possible de toucher les œuvres afin de bien les voir, les
D'accord.
comprendre par le toucher. Il y a cependant une seule œuvre qui est impossible d'apprécier à son maximum, puisque c'est une espèce de miroir.
Oui.
Et donc, pour les personnes aveugles, c'est un peu
Évidemment.
difficile
Évidemment.
de bien
Bien
comprendre
sûr. Bien sûr.
cette partie-là. Et on me disait que pour ce qui est des personnes avec un handicap auditif, ils ne sont malheureusement pas en mesure d'offrir le service d'interprète.
Bon.
Mais si vous avez quelqu'un avec vous
Bien sûr,
qui
bien sûr, d'accord,
peut vous
d'accord.
accompagner puis vous servir d'interprète,
Bon.
ben, c'est possible de le faire. Et
Bon.
pour ce qui est des passages insolites, je vous donne l'adresse Internet rapidement. C'est le
D'accord.
www.passage au pluriel, insolite au pluriel.com.
Parfait, Michel. Eh bien, écoutez, ça bouge hein, beaucoup cet été, que ce soit à Montréal comme à Québec, et c'est bien agréable pour tout le monde. Alors, merci de nous en avoir parlé encore une fois cette semaine. Et puis, à bientôt, Michel Bédard.
À bientôt. Au revoir.
Bonne
Bonne journée à
journée.
Vous. Bye-bye.
I love how you hate the way I always say that you'll learn someday. I love how you keep trying to hold on to me when I turn away. You're painting me pictures of Mrs. and Misters, and they're pictures I'd love to believe. And that's the beautiful thing about princes and queens, and you being so young and naive. You say you're a man and you swear that you can be the world to me, but I've seen the world and I can't be the girl that I think you need. You beg me to listen to see what I'm missing. You're talking all Adam and Eve, and I'm tempted to try, but the problem is I am no longer so young and naive. You look like a face in the movies, your kiss is straight out of a dream. You treat me like I was a princess. What in the world is the matter with me? Mm-hmm. It's not that I'm jaded, but love's complicated. It's hard to see that at 19. I hear what you're saying about having faith, and you promise me you'll never leave. And I wish I didn't know better, but I'm not so young and naive.
Il y a souvent des gens qui me demandent, entre autres parmi les invités, est-ce que c'est vous qui faites le choix musical? Mais non, c'est mon camarade Jean-Sébastien Laliberté, de l'autre côté, dans sa régie, que j'appelle aussi son aquarium. Alors, si tout va bien, je devrais dans quelques secondes m'adresser à Julien Racicot. Qui est Julien Racicot? Il est fondateur et directeur de la fondation Adapte-toi. Et cet homme-là va s'embarquer pour une sacrée aventure à partir du 15 août prochain, c'est-à-dire la traversée, le courage d'avancer, dont il va nous parler tout de suite. Bonjour, Monsieur Racicot.
Bonjour, Madame Fay.
Comment allez-vous?
Très bien, merci.
Vous. Bon, est-ce que vous vous sentez d'attaque, là? Vous êtes un homme en forme?
Oui, je suis en forme, je me sens d'attaque. C'est sûr que je ne vous cacherai pas que je suis assez nerveux.
Oui.
Fébrile à l'idée là, que le grand jour arrive rapidement. Mais on est prêt, puis
bon.
On a hâte au grand défi.
Alors, ce grand défi-là va commencer le 15 août prochain. De quoi s'agit-il?
Je vais faire la traversée Gaspé-Montréal en fauteuil roulant électrique. Fauteuil roulant que je vais contrôler avec ma tête, donc contrôle céphalique. Je vais partir de Gaspé, direction Montréal, un périple d'un peu plus de 1200 km que je vais faire sur environ entre 25 et 30 jours.
Je suis pas très bonne en calcul mental. Ça nous fait combien de kilomètres à peu près par jour, ça?
Dépendamment des journées, là, je vais parcourir entre 40 et 70 kilomètres par jour.
Oh là 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 là! En effet.
Donc, ça va être des grosses journées.
Oui.
Mais c'est pour une grande cause.
Mais oui.
Donc, ça en vaut pleinement la peine.
Alors, la cause en question. Parlez-nous-en tout de suite.
La Fondation Adapte-toi soutient la cause de la lésion de la moelle épinière. Donc, on vient en aide aux gens qui se retrouvent paralysés suite à une lésion de leur moelle épinière.
Ce qui vous est arrivé.
Pardon?
Ce qui vous est arrivé.
Exactement.
Malheureusement.
En 1999, oui, malheureusement.
D'accord. Bon. Alors, donc, vous venez en aide à ces gens-là. Donc, l'argent, parce que, bien sûr, vous allez récolter hein, de l'argent.
Oui, ben on a un objectif assez ambitieux, je vous dirais, de 375 000. Un peu en clin d'œil au 375e anniversaire de Montréal, étant donné que je termine mon périple à Montréal.
Bien sûr.
Et l'objectif est, de ce montant-là est pour venir en aide à 25 personnes qui vont se retrouver un peu partout dans le Québec, soit pour les aider à adapter leur domicile ou à bonifier l'adaptation de leur domicile, ou pour leur offrir une enveloppe budgétaire là, pour se payer plus d'aide à domicile.
Quelle belle idée! Et alors, dans chacune des 25 municipalités, On va vous attendre, hein? On va vous accueillir et il va même y avoir quelques installations, c'est bien ça?
Oui, exactement. Dans chacun des arrêts que je vais faire, on va rencontrer les maires, les gens d'affaires, les citoyens et on va inviter les gens, on a un petit parcours, un défi en fauteuil roulant que les gens vont être invités à faire pour vivre un peu c'est quoi la réalité d'une personne en fauteuil roulant qui évolue dans un environnement mésadapté, comme on dit. Et également, on va distribuer de l'information sur la cause de la lésion de la moelle épinière. On va offrir des breuvages, des petites collations aux gens. Donc, on va faire quelque chose de convivial, agréable pour tout le monde. Puis, évidemment, les gens vont être invités à faire des dons qui vont servir là, vraiment à soutenir la cause.
Ah, écoutez, moi, je trouve ça tellement formidable. Ça vous est venu comment, cette idée-là? Parce que c'est quand même une idée un peu folle de faire une pareille traversée comme ça.
Avec la Fondation Adapte-toi, on a l'ambition de venir en aide à des gens un peu partout dans le Québec. On voulait créer un événement qui permettrait de sensibiliser la population québécoise à la cause de la lésion de la moelle épinière, parce qu'un fait important, c'est que malgré le fait qu'il y a plus de 2000 personnes chaque année qui sont atteintes par une lésion de la moelle épinière, c'est quelque chose qui est très méconnu. Donc, on trouvait ça important de sensibiliser la population à cette cause-là.
Oui.
Et étant donné qu'on veut rejoindre les gens un peu partout dans le Québec, on s'est dit pourquoi pas y créer un défi, un événement qui nous permettrait de traverser plusieurs belles régions et aller à la rencontre de ces gens-là.
Ben, c'est formidable. Est-ce que vous avez une bonne réponse déjà, par exemple, de la part des médias importants que je ne nommerai pas, mais que l'on connaît? Est-ce que vous avez l'impression qu'on va vous soutenir à ce niveau-là? Est-ce que les journaux de la presse écrite ont répondu présent pour parler de vous?
Il y a quelques journaux, oui, qui ont répondu présent. C'est sûr que plus on a d'attention de la part des médias, plus on est en mesure de diffuser le message, d'informer les gens, de sensibiliser les gens à la cause, puis d'aller chercher le plus de contributions possible.
Mais
donc, je vous dirais qu'on n'a jamais assez d'attention médiatique. On est ouvert vraiment à des rencontres avec les grands médias régionaux. Ça nous donnerait un énorme coup de main.
Exactement.
Maintenant, au niveau des médias locaux, je vous dirais que jusqu'à maintenant, on a une excellente réponse.
Bon.
Et on espère que ça continue vraiment. Puis je remercie là, tous les médias jusqu'à maintenant qui ont couvert ce bel événement-là.
Bon, je suis contente pour vous.
On va encore avec nous.
Bon, ben écoutez, j'aimerais qu'on parle un petit peu de vous aussi, Julien, parce que donc vous avez eu cet accident-là à 18 ans, accident de voiture, quatrième vertèbre, j'imagine cervicale éclatée.
C'est ça, oui.
À la suite de cela, vous ramassez tétraplégique.
Oui, exactement. Donc, des épaules aux orteils, oui.
Voilà, exactement. Mais vous recevez des indemnisations?
Oui, bien...
Mais c'est ça, j'aimerais que vous nous parliez un petit peu, parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Ben, remarquez, il ne reste plus qu'une minute, mais il y a malheureusement une blessure et une autre, elles ne sont pas mises... On n'est pas tous mis au même niveau, c'est ça, hein?
Non, c'est ça. Bien, rapidement, là... au Québec, la majorité des causes de lésions de la moelle épinière se font en dehors des accidents de la route ou des accidents du travail.
Okay.
On parle de plus de 63% des gens qui se retrouvent paralysés suite à une lésion de la moelle épinière. Et ça veut dire que ces gens-là, ce 63%-là, se retrouvent avec presque aucune aide financière pour adapter leur domicile et pour se payer du personnel. Donc, la Fondation veut principalement venir en aide à ces gens-là.
Ben,
pour leur permettre d'avoir la même chance que moi j'ai eu.
Bien sûr, ben oui.
Il y a un agent payeur qu'on a.
Bon, écoutez, Julien Racicot, bonne chance. Hein. Je rappelle que vous partez le 15 août entre Montréal et Gaspé, entre Gaspé et Montréal, sur votre chaise électrique. Bon voyage, on se reparle après.
Merci beaucoup, oui, au plaisir de vous parler.
Et on continue d'aimer l'été, bien sûr. Et je voudrais maintenant m'entretenir avec une personne dont j'ai très, très hâte qu'elle nous parle de ce projet qui s'appelle Cueilleur de mémoire. Bonjour, Madame Françoise Henry. Madame
Henry? Il n'y a pas d'abonné au numéro que vous avez composé. Veuillez vérifier le numéro et réessayer.
Je pense que nous avons un petit problème. Écoutez, Madame Henry est la directrice de la Société des arts en milieu de santé. Et puis donc, nous essayons de la joindre à nouveau pour qu'elle puisse nous parler de ce projet Cueilleur de mémoire. Là, je vois mon camarade Jean-Sébastien. Mais regardez, oui, c'est ça qu'on pourrait faire. On va inviter Madame... Nous sommes en direct, hein. Alors là, va-t-on inviter une autre personne qui est déjà arrivée d'ailleurs dans nos studios et qui pourrait fort bien remplacer cette Madame Henry, ou bien je ne sais pas trop. Alors on essaie. On y va avec Madame Henry? On y va avec Madame Henry. Madame Henry, bonjour.
Bonjour.
On m'a fait une mauvaise blague, hein. On m'a dit qu'il n'y avait pas d'abonnés au numéro.
Mais je suis là. taxe un peu.
Bon, alors écoutez, je ne suis pas sûre que la ligne soit évidente. En tout cas, on va essayer de faire cette entrevue. Ce que je vous propose, c'est que si des fois il y avait vraiment trop de problèmes, on y mettrait peut-être fin et on vous recontacterait peut-être un autre jour. Mais en attendant, vous êtes là, d'accord? Alors, vous êtes donc directrice de la Société des arts en milieu de santé. D'abord, qu'est-ce que c'est que cette Société des arts en milieu de santé? Madame Henri, écoutez, malheureusement, je n'entends strictement rien. La ligne est vraiment trop mauvaise. On le regrette beaucoup. Est-ce que vous m'entendez bien? Madame Henri? On vous a perdu totalement. Madame Henri, on va reprendre contact avec vous un petit peu plus tard. On va reprendre contact aujourd'hui même, si vous m'entendez bien. Je vous le dis en direct sur les ondes, mais on va être obligé de reprendre cette entrevue un petit peu plus tard. Ne nous en veuillez pas. On vous recontacte. Alors, si vous m'entendez, c'est ce que je suis en train de vous dire, et je vous souhaite une excellente journée. J'ai très hâte d'entendre parler des cueilleurs de mémoire. En attendant, on va mettre une chanson.
J'ai mangé de l'autocar avec ses jantes, avec ses phares. Ensuite j'ai fumé une berline, pures essences raffinées de benzine. Paris, j'aime ton gasoil, l'odeur de ton excitation moteur. Paris, tu es la capitale, la lettre P en sonneur initiale. Car tu sens si bon l'été sous ta chape de plomb soufrée, que j'ai l'inspiration fatale. Tu seras tout même au temps des pics qui goudronnent tes monuments et font pleurer tous les yeux des amants. On a souvent chanté tes ponts à coups d'excès d'accordéon. Pour l'heure, voici que ces plomb-plomb vont louer tes pics de pollution. Avenue Bel Air ou sur les quais, on voudrait respirer en paix. Quand on sait que tes gaz sont fatales, ça fait sourire ce pays en initial. Car tu sens si bon l'été sous ta chape de plomb soufrée, que j'ai l'inspiration fatale. Tu seras toujours romantique, même au temps des pics qui goudronnent tes monuments et font pleurer tous les yeux des amants. Pas prier, comme atmosphère, un air, comme le bonheur de Paris. I, c'est l'asphyxie, et S, vraiment bon esprit, de nous faire inhaler ainsi, parmi les squares et les allées de si dangereux fumets. Car tu sens si bon l'été, sous ta chape de plomb soufré, que j'ai l'inspiration fatale. Tu seras tout
Ça, c'est un bon groupe. Malheureusement, il n'y a que quelques initiés comme Jean-Sébastien et moi qui les connaissons bien, mais peut-être pas assez le grand public. Ils s'appellent Paris Combo et ils font des choses vraiment extraordinaires. Bonjour, Madame Julien, Isabelle Julien.
Bonjour.
Vous avez eu la gentillesse de venir en studio et si vous saviez comment on l'apprécie, d'une part parce qu'on trouve qu'humainement, c'est très agréable d'avoir un contact direct, évidemment, avec quelqu'un, mais en plus, vous avez peut-être entendu les problèmes qu'il nous arrive d'avoir avec ce cher téléphone. Alors bon, là, j'imagine que ça va prendre quelqu'un qui monte dans le poteau pour aller réparer quelque chose. Non, mais c'est bon. En 2017, oui, ça arrive encore. Alors, on aime beaucoup avoir les gens directement avec nous en studio. Madame Julien, vous êtes la directrice du centre La Petite Échelle.
Exactement.
Qu'est-ce que le centre La Petite Échelle?
Alors, le centre Petite Échelle, c'est un centre de répit, mais spécialisé en stimulation pour les enfants de 0 à 12 ans. Avec un diagnostic, que ce soit du trouble du spectre de l'autisme, déficience intellectuelle, paralysie cérébrale, trisomie 21. Alors, on accueille les enfants de 0 à 12 ans chez nous pour donner un peu de répit aux familles, mais surtout pour travailler avec les jeunes. Que ce soit les parents qui décident, on aimerait travailler l'autonomie, on aimerait travailler au niveau de la parole, des trucs comme ça.
Alors, vous n'êtes pas les seuls à faire ça, mais... Vous avez quelque chose que personne, que d'autres n'ont pas, et je voudrais que vous nous en parliez.
Exactement. Nous, on est, il y a à peu près une dizaine de centres de répit à travers la Montérégie, mais on est le seul centre qui offre un service exclusivement de un pour un, donc un intervenant pour un enfant.
Alors, comment vous réussissez ce miracle?
Ben, écoutez...
Je pense que vous aimez le mot « miracle hein, », parce que ça doit en être un petit peu...
Oui, effectivement, particulièrement au côté budgétaire, parce
Bien sûr,
on est un organisme à but non lucratif, naturellement, alors on doit aller chercher 70 % de notre budget opérationnel, on doit aller le chercher en événements de levée de fonds, en dons corporatifs, en dons personnels, et on doit charger un petit peu aux parents, donc l'autre 30 % doit être chargé aux parents. Mais ça fait toute une différence dans la vie de ces enfants-là et dans la vie de ces familles-là, effectivement.
Mais alors, vous pouvez en recevoir combien à la fois de ces petits-enfants-là?
Un maximum de 12 par jour, parce que 12 enfants chez nous, ben, c'est 12 intervenants. Donc, ça fait 24 personnes en même temps dans le centre. Et ça bouge beaucoup.
Il est où le centre exactement, madame?
Alors, notre bureau-chef, si on peut dire ça, notre pied à terre est à Longueuil, sur la rue Sainte-Hélène.
Sur la rue Sainte-Hélène, oui, je vois bien. Donc, c'est pas loin du métro du tout.
C'est pas loin du métro. D'accord. On dessert la Montérégie au complet, même le Grand Montréal. Et on offre un camp de jour aussi Terrebonne. Oui, alors on a un camp de jour à Terrebonne, un camp de jour à Longueuil. Et encore une fois, nos camps de jour sont offerts exclusivement un pour un.
Alors, est-ce qu'il faut que les enfants soient diagnostiqués?
Non, ça c'est une autre belle différence qu'on offre aussi. Alors, souvent l'attente au niveau du diagnostic est très long. Ça peut être un 2 ans, 3 ans d'attente. Alors, nous, on offre le service même si l'enfant n'est pas diagnostiqué.
C'est ouvert quoi, du lundi au vendredi?
C'est ouvert 7 jours par semaine, de 9h à 4h.
C'est ce que je dis, c'est un miracle. Le centre de la petite échelle, hein, c'est bien ça, est un miracle. D'où ça vient ce nom-là?
Écoutez, on a travaillé très fort l'an passé. Ça fait 25 ans que l'organisme existe, mais l'an passé, on a travaillé très, très fort pour changer le nom. Alors, on a fait des brainstorming, on a demandé à nos intervenants, à nos membres du CA. Et à un moment donné, il y a une de mes employées qui est arrivée, puis elle nous a dit, écoute, petite échelle, parce que ce qu'on fait, c'est un échelon à la fois. C'est vraiment à petite échelle, mais chaque échelon est hyper important ces enfants-là. Alors, ça nous représente vraiment très, très bien.
Alors, on parle d'un répit. Comment ça se passe avec les parents? Ils vous... j'imagine que... Bon, ils vous contactent comme ça, ils vous parlent de leur enfant, mais vous avez certainement besoin de connaître leur emploi du temps, savoir à quel moment on va pouvoir gérer l'agenda des uns avec l'agenda des autres.
Exactement. Alors, ce qu'on demande à nos parents, c'est vraiment de faire... de nous envoyer un horaire pour les prochains 3 mois.
D'accord.
Donc, on fonctionne un peu avec les saisons. Alors là, on a fait vraiment là, tout ce qui est la saison d'automne. Donc, notre horaire du mois de septembre au mois de décembre est déjà fait. Et on demande aux parents de respecter le plus possible l'horaire parce que nous, on a à mettre à l'horaire l'enfant, mais à aussi réserver l'intervenant.
L'intervenant. Quel type d'intervenant, alors, vous avez?
La majorité de nos intervenants, c'est des étudiants qui sont en technique d'éducation spécialisée. J'ai certaines intervenantes qui sont en train de faire leur bac en psychoéducation, leur maîtrise en psychoéducation, adaptation scolaire, comme professeur aussi, psychologue. Alors, c'est, la majorité, c'est des étudiants.
Et c'est pas bénévole.
Non.
Donc, c'est pour ça que ça prend des sous. Hein?
Exactement.
Ça, voilà. Oui, parce que j'imagine que vous voudriez peut-être encore augmenter cette possibilité-là, s'il y avait plus d'argent.
Mais on aimerait ça, avoir plus d'argent. C'est sûr qu'on pourrait augmenter notre capacité. Mm-hmm. Éventuellement, d'ici peut-être 3 ans, j'aimerais pouvoir ouvrir des points de service un peu partout en Montérégie ou même dans la grande région de Montréal pour pouvoir offrir ce service-là à un pour un. Un peu partout, pouvoir avoir des partenariats peut-être avec d'autres centres. Mais tout ça, ça prend beaucoup d'argent. T'sais, nous, chaque enfant nous coûte au centre petite échelle 160 $, 170 $ par jour.
Par jour, chaque enfant, imaginez.
Chaque enfant.
Quand on en a 12 dans, c'est quelque chose, effectivement.
Ouais.
Vous nous disiez tout à l'heure, Madame Julien, c'est ça, Isabelle Julien, vous nous disiez que, oui, on y allait petit à petit, mais qu'il y avait toujours des résultats, finalement, encourageants. Ça doit être fantastique pour vous, mais évidemment aussi pour les parents. Vous devez avoir quelques beaux exemples à nous donner.
Oui, on a plein de beaux petits exemples, plein de beaux miracles.
Prenez votre temps parce que je pense qu'on a tout notre temps ensemble, du coup, à cause de ce problème téléphonique. Ça me fait plaisir de vous l'accorder, Madame Julien.
Ben, vous êtes bien gentille, merci beaucoup. Ça, c'est les joies du direct,
mais
je pense.
Mais oui. Il y a toujours quelque chose de miraculeux qui arrive et aujourd'hui, c'est la petite échelle, c'est ça.
Ben, merci beaucoup, c'est super gentil. Oui, je pense entre autres à un petit bonhomme de 3 ans qui est arrivé chez nous au mois d'octobre dernier, qui ne mange pas seul, qui ne mangeait pas seul, il ne marchait pas, il ne se tenait même pas debout. Et l'objectif qu'on avait à travailler avec cet enfant-là pour les 6 prochains mois, c'était qu'il se tienne au moins 20 secondes debout seul. Et c'était l'objectif que les parents s'étaient fixés avec la physiothérapeute du jeune. Et 6 mois plus tard, les parents sont arrivés, l'ont mis par terre, puis ce jeune-là marche maintenant. Marche, mange, tu sais, avec un peu d'aide, mais il est capable de manger tout seul. Il a commencé à faire des choix. Alors, c'est un enfant qui parle pas du tout, mais... Il marche, il court, tu sais, il tend les bras, il est hyper affectueux. Et
mon Dieu, les parents doivent être... quelle joie, quoi.
Ah oui, absolument.
Quelle joie.
Absolument. Pour les parents, on fait une grosse, grosse différence. Tu sais, moi, j'ai entre autres en tête une maman qui me dit, chaque fois que je viens mener ma petite fille au centre petite échelle, ben le soir, quand je viens la rechercher, quand je passe du temps avec elle, ben je peux être... seulement la maman, je suis pas, tu sais, je peux jouer seulement mon rôle de maman. Je suis pas obligée d'être la psychologue, l'ergothérapeute, la physiothérapeute. Je suis seulement, entre guillemets, là, la maman. Alors, tu sais, ça, c'est précieux aussi.
C'est tellement gratifiant, hein?
Oui, absolument.
Ça fait du bien de faire du bien aux autres aussi. Et je pense que c'est important. Moi, je le rappelle toujours aux gens qui nous écoutent et qui parfois hésitent peut-être à poser des gestes, que ce soit des gestes bénévoles ou non. Il y a une gratification aussi, hein, qui vient au bout de ça. Et c'est aussi important que le salaire, quoi. Ça,
absolument,
c'est certain.
Absolument.
Et là, vous avez un partenariat important qui rentre bientôt ou qui est déjà commencé?
Oui, absolument.
Alors, faut nous en parler.
Ben, écoutez, on est déménagé dans des nouveaux locaux. Alors, on a eu beaucoup de rénovations à faire et on a fait un partenariat avec une compagnie qui s'appelle Intelgest, qui est un intégrateur en sécurité électronique, et avec Igvision, qui nous ont fourni des caméras pour nos jeunes. Alors, comme on a des jeunes à besoins particuliers, je vous dirais 85-90% nous, de notre clientèle, ne parlent pas. Alors, c'est sûr qu'au niveau de la sécurité, je pense que c'était important d'avoir des caméras dans certains endroits stratégiques pour s'assurer que si jamais l'enfant tombe, si jamais l'enfant se blesse, mm-hmm. qu'on peut aller retrouver des images de ça et pouvoir dire aux parents, ben voici ce qui s'est passé aussi.
OK. C'est un problème qui est arrivé déjà? Ou...
Non, c'est jamais arrivé. C'est vraiment en prévention.
En prévention, bravo.
En prévention. Puis je pense que c'est dans la logique des choses aussi. Oui. Quand on travaille avec oui. des jeunes comme ça, à besoins particuliers, je crois que c'est important de... Tu sais, je me mets à la place de ces parents-là. Oui. Moi, j'ai le privilège d'avoir deux grands-enfants en santé, mais mon cœur de maman, même quand j'allais mener quand ils étaient tout petits, puis j'allais les mener en CPE, je veux qu'ils soient en sécurité. Mais à 3 ans, mon jeune est capable de me dire si ça a bien été en CPE, tandis que les jeunes qu'on reçoit au centre petite échelle... ils parlent pas. Alors, tu sais, c'est important, je pense, oui. pour rassurer les parents, puis je pense que c'est juste d'être très transparent dans tout ce qu'on fait aussi.
Alors, donc, vous me parliez éventuellement de développement de points de service.
Mm-hmm.
Ce serait quoi, une espèce de franchise, petite échelle?
Écoutez, c'est quelque chose, c'est vraiment en projet pour l'instant, mais oui, écoutez, ce serait peut-être pas des franchises parce que on voudrait pas en vendre, mm-hmm. mais d'installer, de faire des partenariats avec, que ce soit d'avoir un local dans un C3S ou dans un autre centre de répit ou même dans un CPE, où on pourrait aller offrir nos services dans une certaine région. Je pense entre autres à Vaudreuil-Dorion, qui font partie de la Montérégie, mais que c'est très, très loin pour les parents de venir chez nous à Longueuil. Absolument. Alors, si on pouvait faire un partenariat avec quelqu'un là-bas, on pourrait offrir le même service, que ce soit 3 jours ou 4 jours par semaine, tout dépendant de la demande. Alors ça fait partie de mes projets.
Parce que, et c'est vraiment un très beau projet, parce que ça, c'est ce que vous offrez, hein, 3-4 jours par semaine.
C'est-à-dire que c'est chaque parent qui décide.
Ah, okay.
Alors, on a des jeunes qui viennent chez nous 5 jours par semaine, on a des jeunes qui viennent chez nous une fois par semaine, on a des jeunes qui vont venir des blocs de 3 heures 2 fois par semaine. Alors, mm-hmm. tout dépendant de comment les parents voient ça, comment ça s'intègre aussi oui, dans l'horaire oui. de l'enfant.
Bien sûr. Quels sont vos besoins les plus immédiats en ce moment, en dehors de l'argent? Est-ce que vous avez un besoin en ressources humaines?
Bien, ça, c'est sûr que c'est toujours un peu problématique parce que, particulièrement au niveau des intervenants, parce qu'on ne peut pas offrir de temps plein, que nous, notre horaire est toujours en fonction des jeunes.
Bien sûr.
Ce qu'on a besoin aussi au niveau des ressources humaines, c'est avoir quelqu'un ou plusieurs personnes qui viendraient nous aider à faire... Tu sais, on a besoin de quelqu'un faire du ménage.
Oui.
Alors, tu sais, parce que... Puis de faire des menus travaux. Donc, tu sais, que ce soit réparer des portes qui brisent,
oui.
Que ce soit réparer un ordinateur, des trucs comme ça. Alors, les gens, souvent, vont penser que oui, l'argent, c'est sûr qu'on a mm-hmm. beaucoup besoin d'argent.
Mm-hmm.
Mais quelqu'un qui va venir nous donner du temps...
Mais oui.
On a certaines compagnies aussi qui viennent passer une journée avec 8-10 employés et que là, ils font un grand ménage
mm-hmm.
et qui vont nettoyer les fenêtres, qui vont faire le ménage, qui vont nous installer des fleurs au printemps. Et ça, c'est précieux pour nous.
Mais je comprends.
C'est très, très, très précieux parce que ces compagnies-là, ben ce qu'ils font, on n'est pas obligé de dépenser l'argent parce qu'on mm-hmm. essaie le moins possible de dépenser l'argent pour ça. Pour que ça aille directement aux enfants.
Alors, je vous rappelle que c'est cette conversation que j'ai maintenant depuis quelques minutes avec Isabelle et Julien, c'est au sujet de... D'ailleurs, je dis toujours la petite échelle, mais non, c'est petite échelle.
Oui, le centre petite échelle.
Est-ce que je vous ai laissé finir votre histoire? Non?
Oui, absolument.
Hein? Vous avez brainstormé, puis finalement, vous vous êtes dit, ah, la petite échelle, un barreau à la fois.
Exactement.
Hein? C'est comme ça, et puis...
Absolument.
Oui,
puis il faut vraiment y aller à petite échelle.
À petite échelle, un jour à la fois, un effort à la fois.
Absolument.
Madame Julien, j'ai adoré vous rencontrer. Je dois préciser pour les gens qui ne nous voient pas que vous êtes quelqu'un en plus de complètement radieux. Alors, et donc, je suis convaincue que dans le centre, petite échelle, vous devez aussi déjà faire une belle différence. Alors, merci à vous de vous être déplacé, d'avoir pris ce temps-là. Et puis, bonjour à toute votre équipe.
Promis, je vais leur faire un beau bonjour. Merci beaucoup à vous. Merci de
rien.
Merci de votre invitation. C'est très gentil.
Ça nous a fait plaisir. Merci, madame. Au revoir.
Bonne journée.
George Michael, bien sûr, sur les ondes de Canal M. Il nous reste quelques minutes et c'est assez pour vous donner quelques nouvelles en rafale. Par exemple, l'AMEP, l'Association multiethnique pour l'intégration des personnes handicapées, pour la dernière activité de l'été, le jeudi 17 août, donc jeudi de la semaine prochaine, oui c'est bien ça, nous irons, nous disent-ils, au Centre de la nature de Laval de 10h à 15h. C'est une activité gratuite. Mais vous devez apporter de l'argent comptant pour le transport, c'est-à-dire 5,40 $ pour le transport adapté et 6,50 $ pour le transport en commun, car nous allons dans un autre secteur de Laval. Si vous désirez participer, simplement communiquez avec Marie-Pierre, je vous donne le numéro 514-272-0680, 514-272-0680, le poste 24. Et puis, une bonne nouvelle pour les maladies rares et orphelines au Québec. Un comité avec des représentants du gouvernement, du RQMO, médecins, chercheurs, etc. sera mis sur pied pour discuter de l'établissement d'une stratégie québécoise en matière de maladies rares. Le 3 juillet dernier, trois membres du conseil d'administration du RQMO, Rosemarie Ticlet, Valérie Guyot et Brenda Potter et Pierre Lavoie également, ont rencontré le ministre de la Santé et des Services sociaux, Monsieur Gaëtan Barrette, pour lui parler du besoin d'avoir une telle stratégie au Québec. Cela est donc l'aboutissement de 7 ans de travail du RQMO et de la participation des patients et associations de patients à un sondage, des forums de discussion, un sommet sur les maladies rares, etc. En 2011, le docteur Yves Bolduc avait accepté la mise sur pied de ce comité, mais cela ne s'était pas matérialisé par la suite. Cette fois, ce sera vrai. Donc, vous pouvez voir un résumé de la stratégie que le RQMO propose pour cette discussion avec des solutions bien concrètes en allant simplement sur le site du RQMO. Le parrainage civique de Montréal permet des jumelages d'amitié entre personnes avec une déficience intellectuelle et citoyens bénévoles. Il existe 21 organismes de parrainage civique au Québec représentés par le RQPC. Pour réaliser notre plan de développement, nous recherchons actuellement des gens qui aimeraient s'impliquer bénévolement pour les postes suivants. Pour les sous-comités, cela représente environ 6 réunions annuelles d'1 à 2 heures par rencontre. Les sous-comités...